Lilian de la SF.
Lilian de la SF.
Lilian de la SF.
Et voilà, c'est parti. Bonjour, bonjour.
Salut Flo.
Oui, vous entendez bien, vos oreilles ne vous trompent pas. Elle est là aujourd'hui avec nous.
Oui, j'ai pris des grandes, grandes vacances. Pardon. Je suis désolée, Flo.
Tu es désolée d'avoir pris des vacances, il ne faut pas.
Oui, mais c'était vraiment très long. Mais bon, des fois comme ça, j'aime bien venir parler avec toi.
C'est vrai.
Ouais.
Oui, on parle. Des fois, on n'enregistre pas systématiquement, mais on cause souvent quand même.
Oula, on parle beaucoup. Voilà. Mais aujourd'hui, tu voulais me parler de qui? Parce que tu m'as rien dit, donc je ne sais pas du tout de qui on parle.
Aujourd'hui, je vais parler de deux personnes, deux dames prénommées Anne.
Ah ouais?
Ouais.
Des ânes?
Des
ânes. Pardon.
Non, pas des ânes. Pas du tout.
Des ânes.
Si tu es venue pour faire du mauvais esprit, Alice, c'est pas la peine.
Je sais bien que j'ai l'esprit tordu.
Je voulais parler de Anne Fakhoury, qui a écrit un livre qui s'appelle Narcogenèse, qui n'a pas écrit que cela, mais dont j'ai lu uniquement cette œuvre dont je vais vous parler.
C'est quel genre?
C'est du fantastique qui mêle du polar.
Ah ouais?
Ouais. Elle va nous expliquer parce qu'elle nous raconte un peu de quoi il s'agit. Elle nous présente le livre dans son
D'accord.
interview.
Bah vas-y, j'écoute alors.
Et puis, attends, je vais annoncer la deuxième partie ou on l'annonce après? C'est la surprise?
Bah oui.
Ouais, c'est la surprise. Vous verrez bien après.
Alors, je suis Anne Fakhoury. Je viens de sortir chez La Talente Narcojeunesse, qui est un roman adulte, un thriller fantastique.
Oui, t'as fait de la jeunesse, excuse-moi.
Oui, un diptyque, toujours chez La Talente, Le clairvoyage et la brume des jours, pour la jeunesse, à partir de 12 ans, 13 ans. Voilà, toujours en fantastique et fantasy.
Il t'a semblé évident d'écrire dans cette veine-là, ou est-ce que tu t'es essayé à la littérature générale ?
À l'origine, j'ai écrit pas mal de littérature générale, plus jeune. Et puis j'ai fait des études de littérature médiévale. Et en sortant de la fac, j'étais un petit peu perturbée par ce qu'on pouvait trouver en littérature française, par un mouvement que je trouvais un peu néo-romantique et qui ne me plaisait pas. Et dans la continuité de ce que j'avais fait en médiéval, de ce que j'aimais en médiéval, j'ai trouvé la fantasy. Commençant à lire de la fantasy, en recommençant à lire de la fantasy après une interruption, du coup j'en ai écrit naturellement.
Tu peux nous présenter plus avant Narcogenèse ?
Alors, Narcogenèse est un thriller fantastique. On suit deux enquêtes. Celle de Simon, un flic labrador, responsable par obligation. Sur des disparitions d'enfants de la DAS et celle de Z qui est infirmière et qui a un don qui consiste à voyager dans les rêves des gens. Comme les rêves des gens sont assez dangereux puisqu'ils peuvent se réveiller, qu'elles peuvent se retrouver emprisonnées dans leur esprit, elle voyage essentiellement dans les rêves des gens dans le coma, qui sont obligatoirement beaucoup plus stables. Et comme elle est infirmière et qu'elle a un souci de soins obligatoire, elle les aide à réaliser qu'ils doivent choisir entre le réveil et la mort, sans les guider vers l'un ou vers l'autre, simplement en réaliser. Et une nuit durant laquelle elle se promène comme ça dans le rêve d'un petit garçon dans le coma, elle tombe sur une créature un petit peu bizarre qui se fait appeler le marchand de sable. Et qui est en train de détruire l'esprit de ce petit garçon et qui visiblement la connaît. Z n'est pas n'importe qui, c'est la fille d'un des plus gros industriels pharmaceutiques de la région qui habite dans une maison très particulière qui s'appelle le Chai, dans laquelle les gens n'ont pas le droit d'entrer. Elle y vit avec sa mère et sa sœur et les enfants de sa sœur. Et commence donc ces deux enquêtes qui évidemment se rejoignent à un moment.
Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça te tente?
Par curiosité, ouais, parce que quand elle l'explique comme ça, c'est un peu bizarre.
Bah, c'est tout à fait ça.
Ouais.
Hein, ouais.
Et voilà.
Tu nous parlais tout à l'heure de littérature médiévale. Quels sont les autres types de littérature qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré?
Je lis tout. J'aime beaucoup la littérature sud-américaine, mais j'ai une base très classique, vraiment de littérature classique. J'ai longtemps été un pur produit de la Sorbonne, par anticipation. Et donc voilà, il y a beaucoup de lectures qui m'ont marqué. Lewis Carroll, quand j'étais petite, mais aussi beaucoup d'auteurs classiques.
D'accord. Par contre, est-ce que tu as une culture de l'imaginaire? Tu t'y es mis ou tu lis finalement assez peu ce type de littérature?
Alors, je refuse d'être monomaniaque.
Tu serais pas un peu monomaniaque, toi?
Ah, moi, je suis totale monomaniaque.
Ben ouais, hein.
Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas ma faute. Tout le monde, ils écrivent tous des choses chouettes. J'ai même pas le temps de tout lire ce qui me plaît.
Alors, je refuse d'être monomaniaque. Ça n'est pas du tout dans mon fonctionnement. J'en lis beaucoup, j'en ai toujours beaucoup lu, mais en parallèle de littérature générale, j'ai beaucoup de mal à être encyclopédique avec la littérature. J'aime découvrir, j'aime être étonnée, j'aime tomber amoureuse, avant tout. Donc, je ne me cantonne absolument pas à un genre de lecture.
Si tu devais citer vraiment un auteur qui est important pour toi,
Non.
voilà.
Je peux
Par ordre
citer
alphabétique?
des livres.
Oui.
Mais pas obligatoirement des auteurs. Et puis, on aime des auteurs à différentes périodes de notre vie adolescente, comme il se doit. J'adorais Boris Vian. On m'a offert récemment l'intégrale de Boris Vian. J'ai eu beaucoup de mal à le relire. Parce que j'ai changé, il m'a changé aussi. Et donc voilà, donc c'est très difficile pour moi de citer un auteur. Je peux en citer plein. Lewis Carroll, Alain Fournier, Zelazny, Neil Gaiman. Crowley, ah si, Le Parlement des Fées, évidemment, Victor Hugo, mais sur des livres en particulier.
Je vais être méchante, vicieuse. Est-ce que tu as quelque chose sur le feu?
Oui.
Ça va alors.
Oui, plusieurs choses. Je suis en train d'écrire un roman jeunesse, avec un voyage dans le temps. Une espèce d'hommage à Retour vers le futur, que j'ai interrompu parce que j'ai travaillé avec Lucie Chenu sur une anthologie chez Terre de Brume sur les chevaliers et la table ronde. Je m'étais toujours refusée à faire ça parce que c'est un mythe que j'aime, que j'ai étudié beaucoup à la fac, c'était mon sujet de mémoire et que c'est très difficile d'écrire sur quelque chose qu'on a adoré et qu'on ne veut pas s'approprier en soi parce qu'on a peur de tomber à côté. Et ça a débloqué quelque chose, cette nouvelle. D'abord, je ne pensais pas être faite pour la forme courte, je ne le pense toujours pas, mais j'ai envie de l'explorer. Et du coup, là, depuis quelque temps, j'écris des nouvelles autour des chevaliers et de la table ronde. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. J'ai mis de côté un petit peu le roman, je vais m'y remettre rapidement. Donc voilà, j'ai ça. Mais j'ai toujours quelque chose sur le feu.
Mais pourquoi ça s'appelle narcogénèse? Parce que narcogénèse, je sais pas, moi ça me fait penser à narcoleptique, machin.
Mais justement, elle voyage dans les rêves des gens, d'où narco.
Ah. Bon, et sinon, parce que tu vois, comme elle en parle, elle, moi je trouve que ça me fait penser à des trucs un peu pour vraiment jeunesse, quoi. Toi, tu l'as lu, t'en penses quoi?
Oui, c'est un roman qui peut convenir aux jeunes adultes. Aux adolescents comme aux adultes.
À tout le monde, quoi.
À tout le monde,
Ouais.
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 Ouais, à mon sens, oui.
Et alors, le polar, il t'a pris aux tripes?
C'est plus l'ambiance fantastique avec ce personnage bizarre qui voyage dans les rêves des gens et qui les détruit, qui cherche à détruire les gens et qui cherche à détruire Z, qui est angoissant.
Ah ouais?
Ouais.
Donc c'est bien mené, quoi. Tu as trouvé
Ouais,
que c'était bien
ouais,
mené?
c'est bien mené. Son côté flic, ben c'est tellement ancré dans la réalité que quelque part ça fait vraiment un pendant presque terne à cela, à mon sens. Je parle toujours à mon sens, dans le sens où son flic, c'est vraiment, comme elle le disait également, le Labrador. Il boit pas, il baisse pas, il joue
Mais c'est
pas.
quoi le labrador? Moi j'ai cru que c'était un chien.
Non, non, c'est un flic labrador.
Ben, c'est
C'est-à-dire
quoi un
qu'il
flic
voudrait juste
labrador?
nettoyer le monde de son horreur et de sa tristesse.
Ouais, c'est un anti-héros, non?
C'est un anti-héros, ouais.
D'accord, c'est une pauvre truffe.
Non, non, c'est un type
Non.
sympathique et attachant.
Voilà.
Non, c'est un brave type,
C'est un
c'est un
brave
bon
type.
gars.
D'accord, il te met pas le moral à zéro?
Non,
Non.
non, 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 c'est vrai qu'il est un peu, il est désabusé parce qu'il a beau travailler forcément, ben, il peut pas changer le monde, il aimerait bien le faire pourtant. Et puis, il est confronté à ces gamins de la DAS qui disparaissent. Il a un neveu qui n'a pas de père, à qui il sert de père de substitution.
Ouais.
Donc il y a une tristesse qui s'attache à lui malgré tout.
Ouais.
Et c'est un bon gars, et puis au bout du compte, ça se
Bon.
finit bien pour lui. Il y a une chose que j'aurais aimé qu'elle développe, le déni de grossesse. Elle a fait des recherches dessus. Il y a une scène assez impressionnante sur une gamine qui fait un déni de grossesse et
Ouais.
qui accouche.
Ouais.
Et c'est vraiment impressionnant et ça conduit à le déni de grossesse qui conduit à l'infanticide. Il y a un pan comme ça qui est présent, mais qui aurait pu être encore plus développé, encore plus prégnant et plus
Ça
impressionnant.
fera peut-être l'objet d'un autre bouquin?
Et ça fait partie du pan fantastique, hein?
Ah, d'accord.
Ça fait partie du pan fantastique, ce personnage qui se déplace dans les rêves des autres pour les détruire, est lié à cela, à tout ce pan.
D'accord.
Non, c'est vachement bien.
Ah, bon, bah voilà, enfin, tu l'as dit. Merde, alors, j'en chie pour te faire dire ça quand même. Bon, bah
Non, non,
voilà, c'est
ça
bien. Maintenant, on
rend.
a fini. On peut parler à l'autre
Ouais.
Anne.
On peut passer à autre chose. C'est. Non, c'est un roman réussi.
Bon, très bien. Bon, alors c'est qui maintenant?
Nous allons passer à Anne Guéraud.
Ça me dit rien du tout. Elle a écrit quoi, Anne?
Anne Guéraud, c'est la moitié de Ange.
Ah
Elle
ben...
le travaille à quatre mains avec son compagnon Gérard, sous le pseudonyme de Ange, Anne Gérard. Et ils font plein de trucs. Ils font du scénar de BD,
Ah ouais? Ils
de
ont
jeux de
eu
rôle.
scénar de quel BD ils ont fait par exemple?
Ah ben, des BD d'ange, mais je suis nulle en BD, je vais pas pouvoir te dire. C'est
Ange!
vachement bien, ouais. C'est très réputé.
Ah! Mais oui, je connais en BD, mais je connaissais
Eh ben, c'est
pas
super.
ça.
Nous allons être complémentaires parce que moi, je connais pas en BD.
D'accord, bah, je saurais pas te dire ce que j'ai lu de Ange, mais oui, si, en BD, oui, Ange, oui, ça me parle, ouais.
Ouais, et ben, c'est bien.
Et alors en bouquin, ils font quoi d'ASF?
Ils font de la fantaisie.
Ah
Moi, j'ai retenu ben, les trois lunes de Tanjore ou alors Ayesha, qui est une trilogie,
ouais?
comme tout bouquin de fantaisie qui se respecte.
Oui, mais quel genre de fantaisie, je veux dire, avec le grand méchant, le
Et ben
mal,
non, justement.
et le bien, et gnagnagna,
Non,
et des
justement,
épées.
c'est de la fantaisie très. Allez, je le dis,
Vas-y,
intelligente.
dis-le. T'as osé dire
J'ai osé dire ça.
ça?
Ambitieuse et réussie.
Ouais.
Tout ça à la fois dans une seule trilogie. Puisqu'il s'agit, alors je l'ai lu depuis longtemps, il faut que je réunisse mes souvenirs. Je l'ai lu il y a longtemps, il faut que je réunisse mes souvenirs. Ça commence par une scène très forte, une galère en train de couler. Et évidemment, les galériens se débattent,
Bah oui.
hein, Et il y en a deux d'entre eux qui sont sauvés par une femme qui plonge au mépris de sa vie et qui arrive à en détacher deux.
Ouais. Ah ben oui, t'as oublié de dire qu'ils étaient attachés.
Bien sûr, les
C'est
galériens
pour ça que
sont attachés à leur
moi je
banc de
croyais qu'ils se
nage.
débattaient parce qu'ils savaient pas nager, pas
Non.
parce qu'ils sont attachés au bateau.
Non, les
C'est
galériens étaient
horrible.
attachés au bateau.
Quelle horreur.
Dans les.
C'était enchaîné.
Ils étaient enchaînés, ouais.
Oui, ben oui,
Sinon, c'est pas
mais
drôle.
ben non.
D'autant, alors, je sais pas s'ils étaient enchaînés en permanence. En tout cas, lors des bagarres, des batailles, ils étaient enchaînés. Ça
Quelle
se
horreur.
voit dans Ben-Hur. T'as jamais vu Ben-Hur?
Aussi.
Eh ben, dans la scène où ils sont en galère, au moment où ils se rentrent, où ils vont éperonner l'autre bateau, ils les enchaînent.
Ouais, c'est dégueulasse.
Ouais, c'est dégueulasse.
Et on écoute l'interview ou on continue à parler de ça?
Donc, tu es la moitié d'un auteur reconnu, d'un auteur de romans et scénariste de BD. Une autre activité, jeu de rôle, je crois.
Alors, en effet, on a commencé par la BD, puis au début, ça n'a pas marché du tout, et on a arrêté. Et comme on jouait beaucoup aux jeux de rôle, on est devenu auteur de jeux de rôle à ce moment-là, et notre carrière BD est repartie quelques années plus tard. Et donc, en fait, en jeu de rôle, on publiait sous le nom de G.E.RAN, ce qui faisait Gérard et Anne. Pendant un moment, quand on a repris la BD, on a publié nos BD sous Ange et nos romans, parce que notre carrière roman commençait en parallèle sous G. E.RAN, et finalement on a tout réuni sous le nom de Ange.
Comme vous faites quand même des choses très variées, est-ce que votre mode de travail est identique à chaque fois ou vous travaillez complètement différemment suivant justement si c'est un jeu de rôle ou une BD ou un roman?
Notre mode de travail à deux varie en effet complètement. C'est pas du tout la même chose d'écrire une BD ensemble que d'écrire un roman ensemble. En jeu de rôle, on travaillait en équipe, c'est-à-dire qu'il y avait nous, mais il y avait ce qu'on appelait la Syros Dream Team à l'époque, avec, eh bien oui, c'est Syros Dream Team avec Pierre Pevel, Jeff, avec Stéphane Burat, avec Zlika, qui est... enfin bon, bref. Et puis bien sûr, ben, Croc, qui était le créateur des jeux, notre vénéré leader. Et donc, c'était une manière de travailler qui était complètement différente. Là, en fait, on est à deux. Écoute, je ne vais pas entrer dans les détails en fait, parce que ça serait compliqué. Et puis, je vais pas te dire la vérité. Je vais pas te dire
D'accord.
voilà, je vais pas te dire la vérité parce que c'est un peu les secrets de fabrication. Mais en effet, il va y avoir des projets qui seront plus Gérard, des projets qui sont plus moi. Mais on a toujours, on monte les histoires ensemble, de toute
D'accord.
manière.
Bon, je vais quand même te poser une question très précise à ce propos. Tu verras si tu réponds. J'ai un ami qui m'a dit que pour lui, Aïcha avait été écrite plutôt par une femme.
Eh bien, je ne répondrai pas à cette question, je prendrai un joker, mais de toute manière, pour les romans, l'histoire va toujours être montée à deux. L'histoire va toujours être montée à deux, on va beaucoup en discuter, etc. Et le style va être retravaillé après. Donc, peut-être les raisons pour certains passages, par exemple. En fait, ça serait intéressant de lui demander quel passage lui a fait dire ça, mais pourquoi pas, ça serait amusant d'argumenter ça. Et puis, qu'est-ce qu'il considère comme une écriture féminine, par exemple?
Oui.
Donc, en fait, on peut l'interroger lui.
Je lui demanderai. On fera un complément.
Voilà.
Pour la BD, vous travaillez évidemment avec des dessinateurs. Comment s'organise l'un flux sur l'autre? Ou vous arrivez avec un scénario déjà ficelé et le dessinateur travaille de son côté? Ou est-ce que vous interagissez?
Alors en fait, la plupart du temps, maintenant, et j'ajoute maintenant parce qu'au début de notre carrière, ce n'est pas le cas, on a un scénario ficelé. Il est écrit, enfin il est écrit, il n'est pas complètement écrit, mais le synopsis et le chemin de fer sont faits. Et on va faire des petits, et on va peu à peu le scripter, en fait, le scénariser. En général, 4 planches par 4 planches, jusqu'à arriver donc à 46 planches, qui sont la moyenne des albums franco-belges. Et le dessinateur, et ben, la plupart du temps, on ne l'a pas rencontré, ou on l'a rencontré une fois chez Soleil, et voilà. Il y a des exceptions qui sont quand on rencontre un dessinateur d'abord, qu'on sympathise et que lui a des envies. Alors dans ce cas-là, ça se fait différemment. Et ce n'était pas le cas au début de notre carrière, ben parce que, ben tout simplement parce que dans ce cas, c'est nous qui rencontrions les dessinateurs et le scénario se montait ensemble, alors que maintenant, en fait, Soleil nous trouve les dessinateurs. Donc du coup, la relation est complètement différente.
D'accord. Et c'est pas plus agréable de travailler avec quelqu'un en plus en synergie que de...
Alors, ça dépend complètement. C'est-à-dire que, par exemple, sur une série comme La Geste et les Dragons, où c'est donc, on en est là, le 12e tome va sortir, et on a un univers qui est très précis dans nos têtes, et on sait exactement ce qu'on veut faire, on va adapter le scénario au dessinateur, mais on va adapter le scénario aux forces du dessinateur. On ne va pas l'adapter à ce qu'il a envie de raconter, parce qu'en fait, nous, c'est vraiment notre série, quoi, et puis on, voilà, on la tient, et on est psychorigide dessus, et donc, en fait, le pauvre dessinateur souffre quand il dessine un tome de La Geste. Par contre, je veux dire, on va s'adapter en effet à un dessinateur qui va être plus dans l'émotion, un dessinateur qui va être plus grand spectacle, un dessinateur qui va mieux dessiner les femmes, un dessinateur qui va mieux dessiner les hommes, un dessinateur qui va mieux dessiner les villes, un dessinateur qui va mieux dessiner le désert ou les grands espaces. On va adapter notre scénario à ses forces, mais à la limite, lui ne va pas le savoir. C'est-à-dire que nous, on a déjà, en fait, on a beaucoup de scénarios d'avance sur La Geste. Donc, dans un cas comme ça, c'est très rigide. Par contre, par exemple, sur Marie des Dragons, où là, il y a un seul dessinateur qui est Thierry Desmarais, lui, il voulait dessiner du Moyen-Âge, il voulait dessiner une femme, il avait envie de dessiner des armures, c'est un garçon, hein. Il avait envie de dessiner des armes, il avait envie de dessiner, donc il avait vraiment des envies très claires, et nous, le scénario s'est construit à partir de là.
Mais en fait, ils font tout le temps n'importe quoi, quoi. Oui. En fait, ça change tout le temps, un coup ils font ça, un coup ils font ça, et puis des fois ils s'en foutent, et des fois ils s'en foutent pas, et voilà, quoi.
Bah écoute, c'est la vie aussi.
Ouais, mais c'est vachement bien, non?
Bah oui, c'est bien, ils s'ennuient pas.
Ils doivent faire plein de trucs différents, finalement. C'est trop bien. C'est une super méthode de travail. Flo devrait faire pareil, on devrait faire n'importe quoi tout le temps.
Bah ouais, ça me semble... Ouais. Ouais, c'est l'impression que j'ai pourtant, mais...
Une question idiote qu'on doit te poser à chaque fois. Dans quelle mesure le travail de scénariste de BD et celui de romancier pèsent l'un sur l'autre?
Il n'y a pas d'interaction entre notre métier de scénariste de BD et notre métier de romancier. C'est une bonne question, donc je crois qu'en fait c'est la première fois qu'on me la pose, au contraire.
Ah bon?
Est-ce qu'il y a interaction entre les deux? Donc non, il n'y a pas d'interaction entre les deux. C'est deux manières de raconter très différentes. La BD, c'est beaucoup plus proche du métier de scénariste audiovisuel. Parce que ben, c'est un médium visuel, parce que la place est restreinte, parce que en BD franco-belge, en tout cas, il y a 46 pages, 9 cases par planche, 46 x 9 cases, ben, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et il faut raconter une histoire. Et en plus, nous, on aime bien raconter des histoires très denses, avec beaucoup de personnages et beaucoup de dialogues. Donc, c'est très serré, quoi. C'est très serré. Donc, ça demande une architecture très précise pour pas arriver à la page 45 et être coincé. Donc, c'est vraiment un boulot de scénariste qui se rapporte pas mal au scénario de cinéma et qui repose entièrement sur les dialogues. Un boulot de romancier est beaucoup plus libre, beaucoup plus difficile aussi à mon avis. Mais en même temps, si je veux raconter une scène de bataille ou si Gérard veut raconter une scène de space opéra qui dure 200 pages et que finalement elle en dure 250, ben, elle en dure 250, on raconte des 50 pages. C'est vrai que un roman jeunesse, il y a ça à tel format, un roman adulte, ça à tel format, mais enfin, on est quand même très libre à 50, 100 pages près. Et jamais aucun éditeur nous a refusé un roman parce qu'il est trop court ou trop long. Donc, on peut décider, on en est aux trois quarts et on décide finalement de changer l'héroïne en héros ou le héros en héroïne. Et hop, on peut, alors qu'en BD, ben, quand elles sont dessinées, les 45 pages, on ne va pas dire à notre dessinateur de changer. Que finalement ça va pas se passer dans une ville mais ça va se passer en, je sais pas, dans le désert. Donc c'est plus libre et c'est plus difficile.
Ça a pas l'air comme ça, mais en fait c'est hyper dur de faire une BD. J'aurais jamais cru que c'était aussi difficile que ça. C'est vrai, quand on l'entend parler maintenant, on se rend compte, on se dit mais c'est vrai, on sent même rien que tu prends une nouvelle d'un recueil de nouvelles qui va faire 10 pages ou 12 pages, mais rien que ça, c'est pas forcément évident à mettre dans des petites cases.
Oui.
Finalement,
il y a une énorme densité.
Ah ouais, c'est incroyable, quoi.
Nous avons eu la chance, dans un épisode précédent que tout le monde a écouté, j'en suis sûre, d'interviewer Enki Bilal.
Ouais.
Il nous disait qu'une de ses BD avait failli être adaptée au cinéma, mais qu'après travail, il s'était avéré que la BD faisait 5 heures de film.
Oh bon sang. Ben oui, mais parce que entre deux cases, il peut se passer du temps,
oui,
mais...
tu peux pas faire des flashs qu'avec les cases.
Ben, oui, sinon, ben, c'est sûr, quoi.
Donc, j'ai lu Les Trois Lunes de Tangor ou Aïcha.
Ou Aïcha, voilà.
J'ai été très marquée par le rythme qui est très soutenue, sans être effrénée, et qui prend vraiment, et on est accroché, on n'arrive pas à lâcher. Je sais, c'est pas une question.
Non,
comment est-ce qu'on arrive à justement trouver cet équilibre sans en faire trop? Ça doit être délicat.
Ouh là là, comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre entre un rythme effréné, mais pas trop, que ça soit prenant? Ouais, chers amis, chers lecteurs, chers téléspectateurs, je ne sais pas du tout quoi répondre à cette question.
Ouais,
ben, je ne sais pas, moi je... On écrit, je pense, Gérard et moi, un roman pour nous à 14 ans. C'est-à-dire que lui comme moi, on était lecteurs de science-fiction. De science-fiction, je n'ai pas dit de fantasy. Et on aimait, je pense, tous les deux ben, un certain type de roman, en fait. En fantasy, mes lectures, et Gérard, c'est pareil, c'était tous les contes et légendes quand j'étais enfant, la mythologie grecque. Et moi, en fantasy, j'ai lu très peu de choses. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux et j'ai lu Les Neuf Princes d'Ambre de Roger Zelazny. Je pense que le rythme qu'on essaie de trouver en roman est inspiré des Neuf Princes d'Ambre, qui, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais lisez-le, a un rythme extrêmement soutenu, justement, c'est très impressionnant. Le premier tome est court, il se passe un million de trucs. Dans le premier tome des Neuf Princes d'Ambre, il se passe autant de choses qu'il y aurait maintenant dans un roman de 1000 pages, enfin, c'est incroyable. Et sinon, on est aussi tous les deux des lecteurs d'Alexandre Dumas, et je pense que c'est ça qui nous prend, en fait. On essaye inconsciemment de faire du Dumas, c'est-à-dire de faire du roman feuilleton. Donc des longs romans, mais des romans feuilletons, où à la fin du chapitre, eh ben, le héros est accroché à la falaise, et à la fin du chapitre 2, je sais pas moi, les Anglais attaquent, et à la fin du chapitre 3, l'héroïne va être violée, et à la fin du chapitre 4, elle tombe amoureuse, et à la fin du chapitre 5, la ville brûle, et à la fin du chapitre 6, c'est la guerre, et voilà. Donc en fait, on écrit du roman feuilleton.
Je vais faire une digression à l'attention des futurs lecteurs. Ne croyez pas qu'il n'y a qu'un rythme, il y a également des personnages forts.
Ah bah, évidemment, enfin je veux dire, moi je... Et Gérard c'est différent là. Moi c'est les personnages qui m'intéressent. Gérard est plus intéressé, non pas par l'univers, bizarrement, mais par la structure du récit. C'est vraiment ça qui est son truc très très fort. Et c'est pour ça que c'est difficile de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il fait, parce que je veux dire, des fois c'est moi qui est structuré et des fois c'est lui qui a fait les personnages, je sais pas, c'est pas une règle, mais son truc, qu'est-ce qui me prend la tête, vous pouvez pas imaginer, c'est la structure. Donc si ça commence par un flashback et que ça termine par un flash forward et que le chapitre 8, ben, en fait c'est un truc qui se passe avant le chapitre 7, mais on l'a fait comme ça, ben ça c'est Gérard qui est derrière. Et moi en effet, l'évolution psychologique des personnages et leur relation me tient beaucoup à cœur.
Ouais, c'est... J'adore.
Merci beaucoup.
Il ne faut pas remercier. Bien, une dernière question, puisque je crois qu'on a, une jolie chose là. J'ai lu quelque part dans une interview que tu aimais les rillettes. Est-ce que c'est vrai?
J'adore les rillettes. Mais n'est pas plein de rillettes en dédicace. Parce qu'un jour, je crois qu'Henri Lovenpoke avait dit « j'aime le whisky ». Et les lecteurs ont commencé à lui amener du whisky. Donc, tant qu'à faire, si vous devez m'amener un truc, pas des rillettes, parce qu'en plus, imaginez, je suis en salon, il fait chaud. Du chocolat noir.
Ouais, il faut manger vite aussi.
Du caramel au beurre salé. Ouais. Ah ouais, alors les bonbons, mais les bons caramels au beurre salé, les bonbons qui sont tendres comme ça, c'est incroyable ça.
Voilà, tenez-vous-le pour dit.
Tenez-vous-le pour dit.
Merci beaucoup.
Les Lions de la SF, plus qu'un podcast, hein.
Bon ben, Flo, si vous pouvez lui amener de la bière.
Oui, je veux bien. Je serai à Nantes...
bientôt.
Du 10 au 13 novembre, donc bon, si voilà. Vous voulez m'amener de la bière.
Ouais, parce qu'autre chose, non, même pas les cacahuètes, hein. C'est pas la peine d'amener
les
cacahuètes.
Ah non, les cacahuètes, pas terrible, non, ça, c'est non. Pas terrible.
De la bière et puis des bouquins.
Oui, voilà. Je veux bien les bouquins.
Donc Flo vit de bière et de livres, c'est tout.
Bon alors, c'est pas tout, dans les trois lunes de Tangor ou Aïcha. Parce que les trois lunes de Tangor, c'est le nom de la trilogie version j'ai lu. Aïcha, c'est version Brajlon.
D'accord.
Enfin, je dis version, il n'y a pas eu de...
Non, ils ont changé le titre.
Ils ont changé le titre.
Bon.
Dans ce monde, les blonds aux yeux bleus sont des esclaves.
Ouais. Donne-le-moi tout de suite, je vais le lire.
Ça te plairait, hein.
Ouais, ouais. Tu es mon esclave, Flo.
C'est écrit dans les étoiles. Il y a l'étoile, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a eu une prophétie.
D'accord.
Qui fait que bah, ils sont esclaves. C'est
ouais.
comme ça.
Mmh.
Et le galérien sauvé par la balle inconnue
ouais.
Est un homme de son temps, de son peuple. Bon, il est galérien parce qu'il a fait des conneries, mais il n'est pas de la race des esclaves.
Ah, il n'est pas blond alors.
Il n'est pas blond.
Ah.
Et il est sauvé donc par cette femme qui est accompagnée d'une autre qui est au teint clair, avec les yeux plutôt clairs. Donc il la regarde d'un mauvais œil, forcément.
Mmh.
Ils fuient parce qu'elles, elles sont en train de fuir.
Ouais.
Elles avaient été enlevées et elles fuient devant les gens
ouais,
qui cherchent
la
à les.
Et lui, il a un terrasse barré.
Et lui, il a un terrasse barré parce D'accord. qu'il est un peu recherché.
Donc,
un
ils
peu
se retrouvent
partout.
Tous les trois
à cavaler de partout.
D'accord.
Voilà. Et,
il se passe des trucs.
Et il se passe plein de trucs. C'est
ouais.
vraiment. Ça n'arrête pas une seconde.
Ouais, mais,
c'est
faut pas
génial.
Que tu en racontes parce que rien que là, déjà, on a envie de le lire.
Et il y a vraiment. Une réflexion sur l'histoire se concentre justement sous plein d'aventures sur justement cette race qui est maudite, qui est esclave, qui va se rebeller.
Oui, mais bah ils ont fait c'est la xénophobie sauf qu'elle est à l'envers quoi. Au lieu
oui.
que ce soit les noirs qu'on regarde de travers, les gens bronzés, c'est ceux qui sont bronzés bleus, ça aurait très bien pu arriver chez nous hein. Va savoir pourquoi on n'aime pas les noirs et pourquoi on aime les gens qui ont les yeux cheveux bleus, les cheveux bleus, les yeux bleus et les cheveux blonds. Non, mais c'est vrai, c'est ridicule.
Oui, non, tout à fait. Oui, il y a aucune. C'est une question de culture, dans le sens où, bon, bah, là où les blonds yeux bleus sont plus rares, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas regardés de travers.
Et ben ouais, on aurait pu dire dès le départ qu'ils étaient des maudits aussi, que c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
C'est bah, c'est un petit brun aux yeux noirs qui a dit qu'ils étaient supérieurs aux autres à la fois.
Ouais, c'est vrai en plus, avec une grosse moustache.
Bon, on va pas parler de ce déplaisant personnage, on a mieux à faire.
Non, mais t'es sûr qu'il faut en dire encore plus, parce que là, franchement, c'est trop bien, ça donne envie
oui,
de manger.
Oui, et justement,
tout de suite.
La fameuse Ayesha, bien sûr, la fameuse Ayesha va
ouais.
conduire ce peuple vers la liberté.
Ben oui.
Mais.
Dis-toi
ils vont...
Je
mais
sens que tu vas dire un truc,
vont...
il faut pas me le dire.
Ouais.
Non, je veux pas que tu me le
ils
dises.
Vont substituer... Ils vont substituer une forme d'esclavage par une autre, finalement.
Voilà, j'ai pas entendu ce que tu as
et
dit.
Et le dernier tome, il porte le nom que tu vois. Ferme les yeux. Et donc, t'es prévenue.
T'es méchante.
T'es prévenue, tu le sais. Bah, à la fin, j'étais en larmes quand même.
Tais-toi.
C'est horrible.
Tais-toi.
Donc, comme j'ai fini cette trilogie en larmes, j'en ai conclu qu'elle était réussie, parce
ah bah,
qu'elle m'avait vraiment
oui.
touchée.
Bah, c'est clair. Bon, ben bah, voilà, c'est cool. Bon, ben bah, écoute...
Et ils sont en train d'écrire une autre trilogie,
oui.
dont je ne me souviens plus du titre du premier tome, mais je vais retrouver, puis je le collerai, là.
Ouais.
Tu vois, je ferai un montage... Après recherche, il s'agit de la légende des tueuses démons chez Bragelonne. Et donc, ben elle est en cours d'écriture. C'est bloqué pour l'instant, mais on devrait avoir la suite, un de ces quatre. Ben voilà, on a fini pour aujourd'hui. Hein.
Et ben voilà, il fait beau. On a fait un bon travail cet après-midi, c'est cool.
Ouais, maintenant on peut boire de la trop bière.
Forte. Mais voilà, ben et eux, je sais pas moi.